Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale se précisent. Il y en aura 2600 dans le secondaire. Dans le même temps, toutefois, 1900 seront créés au primaire l'année prochaine. Jeu de bascule qui ne plaît pas aux enseignants, nous y reviendrons. Nous ferons un point aussi sur la présence de l'ours dans les Pyrénées. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, est à Pau ce matin pour en parler. Dans cette édition encore, nous irons en Russie, où un gouverneur pro-Poutine pourrait être évincé pour avoir fraudé à une élection. Cette décision serait une première. Et puis à Porto Rico, les habitants se remettent peu à peu de l'ouragan Maria, dévastateur, il y a un an tout juste. Notre correspondant a rencontré des Portoricains new-yorkais. Son reportage dans moins de 10 minutes. C'était un solde global qui cachait quelques surprises. En annonçant lundi la suppression de 1800 postes dans l'éducation nationale, le ministre Jean-Michel Blanquer n'avait pas dévoilé les détails. À quelques jours de la présentation du budget 2019, il explique bien que les efforts vont se concentrer sur le secondaire, c'était annoncé, c'était prévu, mais avec en réalité 2600 suppressions de postes au collège et au lycée, Alexis Morel.
Jean-Michel Blanquer le répète depuis la rentrée, il veut donner la priorité aux primaires. C'est sans doute ce qui va lui permettre de justifier ses choix budgétaires. L'an prochain, 1900 postes seront créés à l'école primaire, notamment pour poursuivre le dédoublement des CP-CE1 dans les quartiers défavorisés. La priorité aux primaires au détriment du secondaire, avec donc 2600 suppressions de postes d'enseignants au collège et au lycée dans le public. Des profs en moins, donc le risque de classe surchargée? Non, selon le ministre. Il compte notamment sur les heures supplémentaires pour compenser. Jusque-là préservée, l'éducation nationale contribuera donc fortement l'année prochaine à la réduction du nombre de fonctionnaires, au risque de déclencher la colère des premiers concernés. Le SNES, première organisation du second degré, envisage déjà des mobilisations d'ici la Toussaint.
L'Assemblée nationale a voté l'allègement du verrou de Bercy pour les gros fraudeurs fiscaux. L'article du projet de loi antifraude a été approuvé en première lecture hier soir. Il instaure un mécanisme de transmission automatique au parquet pour toutes les affaires qui donnent lieu à des pénalités administratives importantes de plus de 100 000 euros. Le gouvernement salue une avancée décisive et historique. Une opération de communication pour des spécialistes en droit fiscal. Eux soulignent que Bercy aura toujours la main pour transférer ou non une affaire au parquet. Nicolas Sarkozy sera-t-il jugé? Et si oui, quand? Pour le financement présumé illégal de sa campagne de 2012 liée aux fausses factures de la société Bigmalion. Un an et demi après son renvoi en correctionnel, l'ancien président et 12 prévenus vont savoir ce matin si la cour d'appel de Paris annule ou non la procédure. Le nouveau ministre de la Transition écologique est attendu à Pau ce matin. François de Rugy doit rencontrer des éleveurs, agriculteurs, élus locaux et des associations pour évoquer l'un de ses dossiers sensibles, la réintroduction des ours dans les Pyrénées, comme l'avait annoncé son prédécesseur Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui évoquait la survie de l'ours Fiona Mogadam.
Aujourd'hui, dans les Pyrénées, il ne reste que 43 ours, dont deux dans les Pyrénées occidentales. C'est là que vit le seul ours qui descend de la souche pyrénéenne, Canelito, fils de l'ours Canel, abattu par un chasseur en 2004. Une espèce classée en danger critique d'extinction en France par l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui a du mal à se reproduire, notamment car les différents noyaux d'ours dans les Pyrénées ont peu de contact entre eux. C'est donc pour assurer sa survie qu'un plan ours a été publié en mai dernier par Nicolas Hulot. L'ancien ministre a annoncé la réintroduction de deux ours femelles slovènes pour cet automne. Une mesure applaudie par les défenseurs de l'environnement mais vivement critiquée par les éleveurs de la région qui craignent des attaques de l'animal sur leurs troupeaux. L'an dernier, l'ours a blessé ou tué quelques 464 bêtes dans les Pyrénées. Un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes qui s'explique non seulement par une augmentation des attaques mais aussi par la mort de 260 brebis tombé d'une paroi rocheuse. Pour certains, la réintroduction des ours imposerait des contraintes qui entraîneraient tout simplement, à terme, la fin d'une agriculture de montagne.
Un musée mémorial d'hommage aux victimes du terrorisme sera créé en France. Emmanuel Macron l'a annoncé hier lors d'une cérémonie annuelle. Il promet par ailleurs une meilleure aide financière pour les victimes. Les dirigeants européens doivent lancer aujourd'hui en Autriche à Salzbourg la dernière ligne droite des négociations sur le Brexit. Hier, ils se sont renvoyés la responsabilité avec Londres sur les ultimes efforts à consentir pour réussir ce divorce. Avant un déjeuner de travail qui se déroulera sans elle, la première ministre britannique Theresa May a refusé hier que l'Irlande du Nord reste sous le régime économique de l'Union. Des engagements importants, voici comment les États-Unis qualifient les promesses de la Corée du Nord après le sommet intercoréen en début de semaine. Washington se dit prêt à reprendre les négociations immédiatement en vue d'une dénucléarisation rapide. Cette dénucléarisation devra s'achever d'ici janvier 2021, voilà ce que précise le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ce serait une première dans la Russie de Vladimir Poutine. La commission électorale russe recommande d'annuler l'élection d'un gouverneur pro-Kremlin à Vladivostok en Extrême-Orient. Il s'était imposé de justesse alors que son adversaire communiste était largement en tête après le dépouillement de la quasi-totalité des suffrages. Les preuves de fraude à l'encontre du candidat pro-Poutine sont criantes, Claude Brouillot.
24 000 voix égarées dans 13 bureaux de vote, des électeurs forcés de se rendre aux urnes, des achats avérés de voix par des candidats et pour couronner le tout, des changements de données dans le report des résultats finaux. Le bilan de la commission d'enquête fédérale russe est désastreux. Dimanche soir, après le dépouillement de 95% des bulletins de vote, le gouverneur sortant, proche de Vladimir Poutine, était largement battu par son principal opposant communiste. Et lundi matin, il est finalement déclaré vainqueur, à la surprise générale. C'est tellement énorme que même le Kremlin a dû admettre qu'il faudra revoter. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser de problème, puisque Vladimir Poutine en personne avait adoubé son candidat avant le deuxième tour frauduleux en lui accordant audience en marge du forum économique de Vladivostok la semaine dernière. Et si l'annulation du scrutin se confirme ce jeudi, ce sera la première fois depuis 1999 et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine qu'un candidat soutenu par le Kremlin dans une élection au plus haut niveau régional voit sa victoire invalidée pour fraude. Une décision à même de ternir l'image du président russe quand son entourage essaie d'amortir le choc. L'annulation du scrutin de Vladivostok est sûrement décidée pour faire redescendre un peu la pression, car le candidat floué est communiste, et les communistes notamment restent à la pointe du mécontentement concernant la très impopulaire réforme des retraites, contre laquelle d'ailleurs ils appellent à nouveau à manifester samedi à Moscou. Mais ce qui peut paraître inquiétant tout de même, c'est que cette agitation se déroule à 7000 km de la capitale, alors que Vladimir Poutine avait tout fait ces derniers mois justement pour resserrer les liens entre son pouvoir central et les régions.
Donald Trump a promis de ne pas ménager ses efforts pour aider les habitants de la Caroline du Nord après le passage de la tempête Florence la semaine dernière. 15 000 personnes sont sinistrées. La décrue se fait attendre. À Porto Rico, plus au sud, l'ouragan Maria avait ravagé l'île américaine il y a un an, jour pour jour. Et l'on était loin des promesses faites hier à Donald Trump à la Caroline du Nord. D'abord très largement sous-estimé, le bilan humain a été depuis officiellement revu à la hausse. Près de 3 000 morts, notamment à cause d'une gestion désastreuse de la crise par l'administration Trump, administration qui refuse ce bilan. De quoi alimenter le ressentiment de la communauté portoricaine qu'a rencontré Loïc Loury à Brooklyn.
Un grand drapeau portoricain flotte sur la façade de son immeuble. Carmen, 69 ans, regarde la pluie tomber depuis le porche. Voilà des années qu'elle n'est pas retournée sur son île. L'une de ses cousines y a perdu sa maison. Un an après, impossible d'oublier le passage de l'ouragan Maria.
Beaucoup de gens sont morts suite à cette tempête. Trump, il s'en fiche. Il s'en fiche de Porto Rico. Comme personne, Trump, je ne l'aime pas. Il est contre tout. Il a beaucoup d'argent, alors les autres ne l'intéressent pas.
À quelques mètres de la Carmen, c'est aussi son prénom, sort d'une épicerie. Trump n'a effectivement rien fait, dit-elle, mais pire, il a menti.
3000 personnes sont mortes à Porto Rico. Et lui, il prétend que c'est une dizaine. J'ai honte. Parce que ces gens, ils viennent ici, travaillent dur pour gagner leur vie, font tout comme il faut, alors je ne sais pas ce qu'ils racontent. Beaucoup de conneries.
Quant à savoir si elle voterait pour Trump ou son parti,
jamais de ma vie, jamais. Je suis démocrate, jamais.
Derrière le comptoir du magasin, Nikki ne comprend pas lui non plus l'attitude du président. Ses compatriotes vont devoir se débrouiller tout seuls.
C'est un vrai manque de respect pour ces gens et leur famille. Je ne sais pas s'il a de la rancune contre l'île. On va devoir faire avec, on y travaille. Je vois les gens unis, ils travaillent ensemble et ils vont se relever.
Depuis 10 ans, pourtant, la population de l'île n'a jamais cessé de baisser. Le passage de Maria devrait favoriser cet exode. Près de 500 000 personnes pourraient partir, selon une étude, d'ici fin 2019.
Loïc Loury depuis un quartier portoricain à New York pour France Culture. Le temps ce jeudi sera ensoleillé et chaud, plus nuageux ce matin sur le nord-ouest. Ce matin, il fait 19 degrés en région parisienne, 20 à Rennes et Lille, 22 à Bordeaux, 25 degrés à Lyon, 28 à Perpignan.